Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci de nous suivre sur les ondes de Canal M. Les cheveux crépus, les cheveux bouclés, les cheveux métissés, les différentes teintes de peau chez les femmes racisées ont toujours été des tabous. De nos jours, il est courant de voir des couples mixtes avec enfants. Alors, pour ces mamans blanches, les cheveux métissés de leur progéniture est un vrai casse-tête. En table ronde, on en discute avec la styliste capillaire Xiaomi Chan et la conseillère en images, Gérardine Jeune, qui nous donneront des trucs et des astuces pour magnifier la chevelure et la peau de la personne de couleur. Bonjour Xiaomi Chan.
Bonjour.
Alors bonjour Gérardine Jeune.
Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux à Vivement les Femmes.
Merci.
Donc alors je vous mets tout de suite dans le bain en faisant une référence. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est la mini-série qui passe sur Netflix, Colin en noir et blanc. C'est un biopic sur le joueur de football Colin Kaepernick qui, justement, durant le Black Lives Matter, n'avait pas voulu se lever pour l'hymne national. Donc, il est connu là-dessus. Donc, le premier épisode, pourquoi je vais à cette série-là, le premier épisode est presque entièrement consacré à la chevelure de Colin qui a 14 ans et qui a été adopté par des parents blancs. Alors, ce qui était dans cette série-là, c'est sa quête interminable qu'il finit par mener avec sa mère sur son identité, donc sa coiffure, ses cheveux. Alors, finalement, il va chez une coiffeuse qui lui fait des tresses, c'était douloureux. Ensuite, sa mère voit ça et trouve finalement un salon spécialisé dans les cheveux texturés. Et c'est là que Colin se dit que lorsqu'il a eu sa première coupe, donc c'était des tresses, la confiance en lui est passée de 0 à 100. Donc, il disait qu'il se sentait pousser des ailes. Ce qui veut dire, dans cette mini-série, on voit aussi à quel point que les cheveux font partie de l'identité aussi. Alors, et il a eu ses tresses, il était très content, mais son coach lui dit « Non, tu ne peux pas porter des tresses parce que ça te donne une tête de voyou. » Alors, donc, c'est une mini-série qui est très intéressante sur cette identité, cette quête d'identité. Donc, alors, j'ai voulu faire l'amorce parce que c'est présent actuellement sur Netflix et ça parle tellement de cette quête d'identité que ça a duré presque toute la première épisode. Donc, alors, c'était pour faire une amorce. Xiaomi Chan, donc vous êtes styliste capillaire. J'aimerais d'abord que vous nous expliquiez quelle est votre expertise, c'est quoi une styliste capillaire?
Alors oui, je suis précisément coach capillaire.
D'accord.
En fait, j'aide les mamans qui ont des enfants aux cheveux texturés. Ça peut être une fille ou un garçon. Quand je parle de cheveux texturés, je parle de cheveux qui sont bouclés, frisés ou crépus. En fait, je me suis aperçue via ma propre expérience qu'il nous manque dans notre communauté où les femmes qui ont les cheveux texturés, cette éducation capillaire, cette transmission capillaire du fait de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de nos cheveux. Et c'est très important, comme vous l'avez dit, il y a un lien direct entre nos cheveux, la confiance et l'estime de nous. C'est très important, vous l'avez dit, donc dans le premier épisode, lorsqu'il a eu ses tresses, il a eu confiance en lui et il s'est mieux senti. Et c'est exactement ça que j'essaye de transmettre à toutes ces mamans, qu'il ne faut pas négliger nos cheveux. C'est une part importante, surtout lorsqu'on est une femme, donc lorsqu'on a une petite fille, pour sa croissance et pour son développement personnel.
D'accord. Gérardine Jeune, donc vous êtes conseillère en images. Alors, en quoi consiste conseillère en images?
En fait, conseillère en images, j'ai voulu englober le tout par rapport à mes expériences, que ce soit au début en tant que maquilleuse, ça fait plus de 20 ans, et ensuite, je me suis lancée dans le stylisme au niveau vestimentaire, et conseillère en images, c'est vraiment donner des conseils, que ce soit au niveau de la peau, du teint, le maquillage, les vêtements, donc vraiment, j'englobe le tout. Donc, j'ai appelé ça conseillère en images.
Oui, oui, merci. On va faire vraiment une table ronde où on va parler un peu, on va partir du maquillage aux cheveux parce que je pense que c'était important pour nous de mettre ces deux volets-là ensemble dans une émission parce que tout ça fait partie aussi de cette quête identitaire, de savoir est-ce qu'on peut trouver un fond de teint pour nos peaux, etc. Donc, alors c'est important de mettre ces sujets-là en commun. Donc, n'hésitez pas d'intervenir si vous le voulez. Alors, Siumé, vous avez dit que il y a plusieurs types de cheveux. Mm-hmm. Donc, expliquez-nous un peu les types de cheveux.
Oui, bien sûr. En fait, scientifiquement, il existe trois types de cheveux. Le premier type de cheveux, c'est le type asiatique, tel qu'on le connaît, raide. Mm-hmm. Ensuite, on a le type caucasien. Donc, le type caucasien peut être raide, bouclé ou frisé. Mm-hmm. Donc là, on parle vraiment de la génétique. Et le troisième, c'est le type qu'on dit crépus. Mm-hmm. Donc, le type africain. C'est vraiment trois types de cheveux. Avec le temps, avec l'évolution, les métissages, on se retrouve avec des cheveux pas totalement lisses ou totalement frisés. Mmh. On a ce qu'on appelle des cheveux texturés. On emploie le mot texturé à partir du moment où le cheveu n'est pas lisse. Mmh. Et donc, en fait, on arrive avec des enfants, des femmes qui ont des cheveux bouclés, frisé ou crépus. C'est vraiment les trois types de cheveux. Après, c'est vrai qu'on les catégorise avec des lettres et des numéros, mais pour faire simple, je vous dis trois types de cheveux, bouclés, frisés ou crépus.
Mm-hmm. Après, dans chaque catégorie, il y a plusieurs, parce que même dans le crépus, il y a le très crépus, le moins, bon, en tout cas, c'est ce que vous appelez, j'ai vu une vidéo sur votre site internet, donc qui disait aussi le type, comment trouver le type de cheveux.
Exactement. Après, c'est important de définir son type de cheveux, parce que c'est de là où on va savoir quels soins il faut faire, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes soins quand on a un type bouclé que quand on a un type crépus.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'avec les métissages, on peut avoir plusieurs types, mais ça reste, je vous dirais, entre frisé, crépus, crépus ou bouclé, frisé. Quelqu'un n'a pas un cheveu bouclé et crépus sur la même tête. C'est pas possible.
C'est ça.
Donc, effectivement, plus on a les cheveux qui tendent vers un cheveu crépus, plus on a un cheveu fragile et plus on a un cheveu sec. Mm-hmm. C'est la génétique, c'est comme ça. Mais du coup, une fois qu'on connaît son type de cheveux, on peut apporter les soins nécessaires pour son type de cheveux et utiliser surtout des produits adaptés à son type de cheveux. Et c'est là qu'est toute la difficulté, en fait.
Mm-hmm. Donc, Gérardine, vous, on a parlé des types de cheveux. Mm-hmm. Alors, dites-moi maintenant les différentes teintes de peau.
Ben en fait, il y a une différence, c'est justement par rapport au, comme justement on parlait de cheveux au niveau du métissage, il y en a aussi dans la teinte de peau. Mm-hmm. Et ça, c'est pas nécessairement perçu à l'œil nu, dans le sens que les mêmes types de peau, par exemple le teint plus doré, le teint plus, comme on dit doré, donc on dit chaud, mm-hmm. il y a le teint froid, mm-hmm. et il peut y avoir aussi un teint un peu plus olive. Mm-hmm. Donc, on dit souvent des méditerranéens qui ont la peau olive et tout, mais ça arrive aussi qu'une femme noire, dépendamment de son métissage, de sa culture et tout, pourrait avoir un peu un teint un peu olive. Donc, mm-hmm. il y a plusieurs teintes, mais c'est principalement, on dirait, chaud, froid et olive.
OK. Alors, trois aussi. En plus, même au niveau de la teinte de peau, il y en a trois.
Oui, maintenant j'y pense, ouais.
Oui, c'est trois. Et sur ce que j'ai vu aussi, vous avez dit comme même sur un visage, mm-hmm. il peut avoir même trois différentes teintes.
Oui, justement, ben en fait, les femmes de peau noire ou les hommes ont souvent différentes teintes. Au niveau des joues, il peut y avoir une partie un petit peu plus foncée. Mm-hmm. Souvent, quand mes clients me parlent, ils me disent qu'eux, ils n'ont pas de cernes, mais on a tous des cernes.
Oui.
Donc, dans le sens qu'au niveau des yeux, au niveau des joues, peut y avoir en dessous des yeux, c'est beaucoup plus pâle, mm-hmm. le front est plus foncé. Donc, quand ça vient le temps de chercher un fond de teint, c'est un peu difficile parce que avec toutes ces teintes-là, si tu mets un produit, le même produit sur la partie foncée et la partie plus pâle, le résultat n'est pas le même. Mm-hmm. Donc là, c'est pour ça qu'on parle souvent de correcteur pour aller justement à la base corriger le teint, mm-hmm. pour l'unifier, pour ensuite porter le fond de teint. Alors, on corrige où est-ce qu'on sent qu'il y a des parties un petit peu plus foncées, on l'unifie et ensuite, on met le fond de teint.
Wow, ouais. J'adore cette émission parce que j'en apprends aussi. Je poursuis ma discussion avec Siomé Chan, styliste capillaire, et Gérardine Jeune, conseillère en images. Donc, alors, je continue avec vous, Gérardine. Mm-hmm. Moi, je me souviens d'un temps qui n'est pas si lointain, que lorsque j'avais des entrevues à la radio, à la télévision, disons, je devais amener mon fond de teint, amener mon maquillage, parce qu'une fois, je ne l'ai pas fait, j'avais l'impression que je ressemblais à un clown. Mm. Donc, est-ce que ces choses tendent à changer, quoi?
Je veux vous dire oui, mais non.
Ouais.
Dans le sens où, encore aujourd'hui, que ce soit mes clients qui me parlent de leur expérience sur les plateaux ou moi-même, on a malheureusement toujours besoin d'amener nos choses. Et j'ai hâte toujours, que même on parle de maquillage, même les cheveux, mm-hmm. au niveau des cheveux texturés et tout, parfois la coiffeuse, elle arrive, elle ne sait pas trop comment manier les cheveux. Donc, au niveau du maquillage, donc là, typiquement, tu arrives à la télévision, l'invité caucasienne, elle est là, les deux mains vides, elle a sa bouteille d'eau, elle attend qu'on se prépare. Moi, j'arrive avec un sac, j'ai un spray pour les cheveux, conditionneur. Les produits, le fond de teint, il faut toujours amener ces trucs parce qu'on ne sait jamais justement mm-hmm. si on tombe sur quelqu'un qui va être capable de le faire. Et il y a même des histoires avec des amis à moi qui me disent que justement la maquilleuse se sent offusquée qu'on lui demande est-ce que tu es habituée à maquiller les peaux noires. Et la dame était comme oui, j'ai déjà maquillé telle personne, mm-hmm. j'ai des amis noirs.
Oui.
Donc, tout, et le résultat. Le fond de teint n'était pas le bon. Soit donc c'est vraiment au niveau de l'éducation. Puis j'ai su avec le temps que même les femmes ou les hommes qui prennent des cours de maquillage, mm-hmm. ils ne passent pas assez de temps sur. Il y a pas de module pour la peau noire. Ils en parlent pendant peut-être 5 minutes, mais pendant toute une session, on passe sur le sujet rapidement. Mais eux, quand ils arrivent sur le terrain, ils n'ont pas les outils ou je veux pas dire pas les outils. Faut dire c'est il y a moyen aussi d'apprendre sur YouTube et faire des essais et tout, mais jusqu'à aujourd'hui, on en parle encore, les mannequins dans les défilés de mode à travers le monde, on a encore le même problème. Mm-hmm. Et certaines femmes sentent que si elles n'apportent pas leurs propres produits, elles seront pas bien maquillées ni coiffées.
Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Siomé, vous parlez, vous, d'éducation capillaire. Mm-hmm. Il y a une éducation à faire, que ça soit une maman qui a blanche, qui a un enfant métissé ou même... d'autres styles de métier aussi. Hein. Mm-hmm. Gérardine vient d'en parler. Donc, quand on parle d'éducation capillaire, qu'est-ce que vous entendez par là, justement?
Alors, quand je parle d'éducation capillaire, je parle surtout de transmission capillaire, puisque, en général, c'est la maman qui transmet à son ou à ses enfants. Mm-hmm. Je prends mon propre exemple. Ma maman était martiniquaise, donc elle est noire. Oui. Elle n'a pas eu d'éducation capillaire. Elle est née en Martinique, elle a grandi à la campagne, elle avait les cheveux attachés. Mm-hmm. Son seul rêve, c'était d'épouser un Chinois ou un Suédois pour que ses enfants aient les cheveux moins crépus. Wow. C'est ce qu'on avait et c'est ce qu'on mettait dans la tête des femmes noires à l'époque aux Antilles. C'est surtout le cheveu et la première mode était le défrisage. Donc moi, j'ai toujours connu ma mère avec des défrisages. Mm-hmm. C'est ma tante qui venait à la maison pour défriser ma mère. Mm-hmm. Donc moi, quand il est arrivé un temps où mes cheveux ont commencé à changer, je suis née avec les cheveux lisses. Et ensuite, j'ai eu les cheveux beaucoup plus bouclés. Ça a été compliqué pour elle de gérer mes cheveux. Elle ne savait pas gérer mes cheveux. Elle ne m'a pas apporté cette transmission ni cette éducation, puisque moi-même, j'ai fini par lisser et défriser mes cheveux jusqu'à une vingtaine d'années.
Okay.
Et c'est juste après que j'ai commencé petit à petit à me renseigner sur le comment du pourquoi mes cheveux sont toujours secs, pourquoi je ne pouvais pas garder mes boucles, etc. Et jusqu'au mouvement nappy dans les années 2010 qui est arrivé en Europe et ici au Canada. Et là, je me suis dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour nos cheveux parce que je ne peux pas garder mes cheveux lisses tout le temps. Mm-hmm. Ce n'est pas ma nature, ce n'est pas moi. Mm-hmm. Et effectivement, aujourd'hui, je voudrais apprendre, alors autant aux mamans caucasiennes qui ont des enfants métisses, mais aussi aux mamans noires de se réapproprier notre culture capillaire.
Oui.
C'est ça qui est important et c'est ce qu'on doit transmettre à nos enfants. Mmh. Et c'est de là que ça passe puisque nos enfants pourront aussi transmettre cette culture capillaire à leurs propres enfants. Mmh. Et c'est ça qui est primordial aujourd'hui, c'est cette lacune de connaissance sur notre propre type de cheveux.
Oui, non, c'est vraiment important. Dans, je parlais au début de la mini-série Colin en noir et blanc. Il y avait aussi cette... on parlait de l'identité qu'amène les tresses. Mm-hmm. On a appris, mais très jeune, à tresser. Oui. À même nos poupées. Moi, je me souviens, je tressais ma poupée et tout ça. Donc, apprendre à faire des tresses. Donc, c'est sûr que les tresses sont porteuses d'une charge identitaire.
Oui.
Je sais, Siumé, vous avez participé aussi, je pense, en novembre, si je ne me trompe pas, oui. avec... c'était quelque chose sur les... C'était vraiment
oui,
c'était une représentation, exposition. Une exposition
hein,
sur les tresses, donc les tresses africaines, etc. Donc, on voit qu'il y a toute cette charge identitaire. Parlez-nous des tresses, parce que j'ai vu des tutoriels
oui.
Où vous montrez à faire des tresses
oui.
aux mamans. Donc, parlez-nous de cette charge identitaire et puis de comment, pourquoi les tresses sont aussi... historique aussi.
Oui, bien sûr. À l'époque, avant l'esclavage, les personnes noires portaient en fait leurs cheveux, leurs aidaient à savoir de quelle tribu ils appartenaient. Donc à l'époque, il y a des centaines d'années de cela, on savait quand on regardait une personne de quelle tribu il venait, de quelle langue il parlait. Donc les gens avaient sur eux et visiblement leur culture et leur identité. Aujourd'hui, on l'a perdue. Mm-hmm. Les tresses, c'est très important parce que ça nous permet de transmettre cette, comme je vous l'ai dit, cette transmission, cette culture capillaire. Alors oui, les tresses, c'est important, mais il y a aussi d'autres techniques de coiffure qui permettent de coiffer l'enfant. Et c'est sûr qu'à partir du moment où l'enfant est coiffé, on va dire un peu culturellement,
oui.
il va se sentir appartenir à une communauté.
Voilà.
Ce qui est drôle, c'est que ma fille, même si son père est martiniquais guadeloupéen, ma fille a un teint clair. Mm-hmm. Mais du coup, quand on est arrivé en Martinique, puisqu'on était en Martinique récemment, elle se sent noire, mm-hmm. même si elle a une peau claire, mm-hmm. parce qu'elle se reconnaît aux autres, des autres petites filles, parce qu'elle est coiffée exactement pareil. Mm-hmm. Donc c'est très important d'avoir cette culture et cette identité pour les enfants, mm-hmm. qu'ils soient métissés, qu'ils soient noirs. Mm-hmm.
Mm. Au niveau, Gérardine, je me retourne vers vous. Au niveau de la peau noire, on a parlé du cheveu. Crépi Siomi nous a dit que plus le cheveu était crépu, plus il devenait fragile. Donc, je pose la même question pour la peau. Mm-hmm. Est-ce que la peau noire, on dit toujours qu'elle est beaucoup plus, elle est beaucoup moins fragile. Est-ce que c'est vrai?
Ben en fait, justement, le terme « black don't crack »,
oui,
on dit
voilà,
tout le temps,
voilà.
Par rapport aux peaux, je pense qu'à un moment donné, plus jeune, c'est tout ce qu'on disait justement, ouais. que la peau, elle est avec la mélanine et tout, le soleil, tout va bien et tout. Mais ça, c'est au niveau de l'éducation aussi, parce que c'est un manque d'éducation. Il faut en prendre soin, il faut l'hydrater et il faut mettre un écran solaire.
Ouais.
Pour dire que c'est sûr que plus le teint est foncé, plus la peau est plus résistante au niveau des rides et tout. Mm-hmm. Mais il faut quand même en prendre soin parce que le soleil, comme je dis tout le temps, le soleil de ma mère quand elle était en Haïti et le soleil d'ici, c'est pas la même chose.
Ouais.
Les réactions, la pollution et tout. Donc, oui, elle est plus résistante, mais il faut quand même en prendre soin. Et c'est ce que je remarque quand je parle avec certaines clientes ou je leur conseille des produits. C'est que on peut avoir la peau grasse, mais elle est quand même déshydratée. Donc, il faut l'hydrater, que ce soit du beurre de karité ou quoi que ce soit. Il faut constamment hydrater sa peau. Mm-hmm. Donc, oui, elle est résistante quand on parle des rides et tout au niveau des génétiques. Mais en fait, il faut quand même en prendre soin.
En prendre soin.
Ouais.
Puis au niveau au soleil aussi, il faut mettre son écran.
Effectivement, toujours un écran ouais. solaire, c'est important.
Parce qu'il y a toujours cette légende urbaine aussi qui dit que les noirs ne bronzent pas.
Oui, non, mais encore aujourd'hui, il y en a plein qui croient qu'ils ne bronzent pas. Et on bronze, tu vois.
Oui.
Et aussi que plus jeune, bon, là, on va commencer à rentrer dans les trucs de teinte de peau,
oui.
Plus pâle, c'est toujours mieux vu que plus foncé et tout oui. et tout. Donc, c'est sûr que plus jeune, on m'empêchait de justement aller au soleil pour pas trop bronzer, pour pas être trop foncé.
Oui.
Mais donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui n'ont pas été exposés au soleil.
Mm-hmm.
Mais on est au Québec, il faut s'occuper de sa peau, il faut mettre de l'écran solaire, c'est hyper ouais. important.
Ouais. Mm-hmm. toujours en compagnie de Siomé Chan, styliste capillaire, et Gérardine Jeune, conseillère en image. Alors, on a parlé des tresses tout à l'heure. Lorsque, ça c'est une question que je pose, je connais la réponse parce que moi aussi, avec mes cheveux et tout. Donc, lorsqu'on porte des tresses, est-ce que c'est à quel rythme qu'on doit se laver les cheveux? On en prend soin durant le port des tresses, mais à quel rythme?
OK. Donc, je voudrais faire la différence. Il y a deux choses. La première, c'est porter des tresses avec ses propres cheveux.
D'accord.
Donc, j'ai mes cheveux naturels, je fais des tresses collées ou je fais une coiffure. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de coiffure protectrice lorsqu'on fait des tresses ou une coiffure avec des rajouts.
Oui.
Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Si je fais des tresses avec mes cheveux naturels, je pourrais les garder une à deux semaines, mais je dois laver mes cheveux, retirer les tresses, puisqu'ensuite, après, ça abîme quand même les cheveux. Enfin, ça abîme. Si on les garde trop longtemps, la coiffure, les cheveux risquent de s'emmêler. Donc, aux deux semaines, voire trois semaines, si c'est des toutes petites tresses, c'est possible, mais il faut quand même réhydrater les cheveux. Pour les personnes qui mettent des rajouts, donc qui utilisent des faux cheveux pour pouvoir faire des coiffures protectrices, on parle de six semaines. On s'entend que la plupart des femmes ne gardent pas leur coiffure protectrice six semaines, mais c'est ce que conseillent les coiffeurs, vraiment, c'est six semaines. On doit quand même laver ses cheveux, même si on a une coiffure protectrice, et les hydrater également,
comme il faut,
aux deux, trois jours ou aux semaines. Donc, on essaye de faire un shampoing par semaine et on hydrate aux deux, trois jours avec une lotion, un vaporisateur, par exemple, avec du gel d'aloe vera, un peu d'eau, et on met un petit leave-in, on met une crème dessus. Donc, c'est très important. On ne garde pas les tresses plus de six semaines. On essaye, on va dire, deux mois maximum. Si vous les en avez pris soin, hydratés, bien sûr, on dort avec un bonnet en satin ou une taie d'oreiller en satin pour protéger les cheveux. Mais au-delà de ça, on évite, puisque ensuite ça va casser les cheveux. On parle après d'alopécie, de traction, etc. Donc, on essaye vraiment de les hydrater, d'en prendre soin, même si on a des rajouts.
Pas évident.
C'est vraiment parce que quand
on met des tresses, moi, je me dis, ben, je suis en vacances, j'ai pas besoin. Et parfois, je vais faire une semaine ou deux semaines, je les hydrate pas parce que je me dis, mais j'ai oublié parce que c'est plus facile. Tu vois, t'as les tresses, on les attache, on sort, on passe à... C'est vrai, c'est pas évident, mais c'est intéressant. Merci.
Mais il faut dire que c'est pas évident vraiment avec nos cheveux. Et puis, c'est pour ça que cette émission est quand même importante pour justement démystifier aussi, pour les gens qui connaissent pas, mais aussi d'en parler. Alors moi, je vais tout de suite dire, moi, ma grande frustration, c'est que ça fait 7 ans que je fais du yoga chaud. Et je devais décider, est-ce que je fais du yoga chaud que j'adore ou mes cheveux? Parce que le yoga chaud, ce que ça fait, c'est qu'on transpire tellement après une séance, on transpire de la tête. Donc, la racine, les cheveux, même quand je les lisse, ben, ils deviennent crépus. Alors, alors pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, ils vont dire, ben non, mais quoi, c'est ça. Mais non, mais c'était la gestion de savoir quand je tire mes cheveux, quand est-ce que je vais avoir mon prochain cours de yoga. Alors, ça va, je raconte ça parce que ça va jusque-là de savoir comment, parce qu'il faut traiter le cheveu. Déjà, c'est un cheveu sec, donc en faisant du yoga chaud, c'est encore plus sec, ça devient tout ça. Donc, ce qui amène mon sujet prochain, c'est-à-dire le port de la perruque chez la femme noire. Alors, tout ça fait aussi, je me suis posé la question, est-ce que je mets une perruque pour arriver à faire du yoga chaud? Bon, il faut aimer puis il faut se sentir à l'aise, ça n'a pas été le cas. Mais c'est ça. Donc, on voit beaucoup maintenant les femmes noires avec des perruques.
Oui.
Pourquoi ce phénomène, selon vous, Siomé?
Moi, je trouve que c'est un phénomène de mode. Premièrement, en tant que femme, je vous avouerai que je porte pas régulièrement des perruques, mais ça m'a déjà arrivé, même moi, de porter des perruques, parce qu'on a tout simplement, on est une femme, on a envie d'être jolie, on a envie de changer de tête. Et puis, il y a aussi ce phénomène de mode où on voit beaucoup de stars sur YouTube et autres réseaux sociaux avec de longs cheveux lisses. Je parle surtout de femmes américaines, où les démarcations sont... Et c'est très joli. Après, il faut savoir si on porte la perruque parce qu'on aime ça et qu'on assume aussi ses cheveux crépus, ou bien parce qu'on porte la perruque pour cacher ses cheveux crépus. C'est vraiment deux choses différentes. Il faut vraiment faire la différence entre les deux.
Ouais. On parle de ça parce qu'il y a, comme vous avez dit, au niveau des tresses, il y a les ajouts, il y a la perruque, il y a aussi ce qu'on appelle les extensions. Mmh. On a aussi, Gérardine, le maquillage qui est différent, etc. Donc, ce qui fait qu'il y a un budget énorme à placer au niveau de notre portefeuille, dans notre budget, et pour le soin capillaire et pour aussi avoir des produits qui répondent à notre peau. Donc, Siumé, comment que vous abordez l'aspect budgétaire avec les mamans que vous rencontrez?
Alors, en fait, moi, je vois plutôt ça comme un investissement et non pas comme une dépense. C'est comme les personnes qui choisissent de manger bio. On s'entend que c'est plus cher et ils le font pour leur santé. Et c'est exactement la même chose pour que ce soit nos cheveux ou notre peau. On investit dans des soins capillaires de qualité, naturels et adaptés à nos cheveux. Donc, un 100 $ investi et non pas dépensé, on aura tout de suite des résultats, contrairement à un 50 $ acheté en grande surface chez Pharmaprix, par exemple. Donc non, oui, effectivement, il y a un budget, mais il faut le voir plutôt comme un investissement. Donc un kit de départ, un kit de démarrage qu'on achète. Et ensuite, de toute façon, des produits de qualité, on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Donc ils durent au minimum 4, 6 mois, parfois 8 mois avec un kit de produits.
D'accord.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Les cheveux des femmes racisées, métissées, les différentes teintes de peau chez ce même public est un sujet qui semble complexe, mais on le démystifie avec Siumé Chan, styliste capillaire, et Gérardine Jeune, conseillère en images. Donc, Gérardine, vous êtes conseillère en images. Décrivez-nous une première rencontre. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous abordez le sujet de la transformation ou je ne sais pas?
En fait, je dis conseillère en images, mais c'est pas mal de la thérapie, en fait.
D'accord.
Sans nécessairement être officiellement thérapeute. Mm-hmm. Parce que souvent, les gens viennent vers moi lorsqu'elles ont besoin de justement changer de tête, changer de look, les vêtements. Ils trouvent qu'elles sont rendues à un moment dans leur vie où est-ce qu'elles sentent qu'elles veulent changer. Et moi, je dois avoir la conversation justement pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut changer, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'on va mettre en valeur. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des perruques, justement. Moi, je vais creuser pourquoi cacher les cheveux. Est-ce que c'est parce que tu ne les aimes pas? Tu ne sais pas comment en prendre soin? Donc, c'est vraiment d'aller à la base pour comprendre, en fait, ce qui se passe. Et puis moi, à ce moment-là, je propose des solutions au niveau du maquillage, des cheveux, des vêtements pour qu'elles se sentent mieux au final.
Donc, c'est pour améliorer selon ce qu'elles veulent en réalité.
Oui, ben c'est ça, parce qu'en fait, souvent les gens viennent me voir et disent « Ok, j'aime ton style, je veux que tu changes mon style, je veux te ressembler. » Les gens ne peuvent pas techniquement me ressembler.
C'est ça.
Et ça arrive souvent que je propose des choses que moi je porte, qu'elles ne sont pas prêtes à porter, qu'elles n'osent pas non plus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit « Ok, au lieu de oui, j'écoute la cliente, mais à ce moment-là, c'est d'aller creuser pour comprendre le pourquoi. Et à ce moment-là, on trouve des conseils parce que oui, au final, c'est parce qu'elles veulent se sentir mieux, elles veulent sûrement un moment tragique dans leur vie, elles veulent changer, donc j'arrive à ce moment-là. Et je travaille beaucoup avec des artistes aussi qui ont des occasions spéciales, parce que je peux être beaucoup plus créative dans les costumes, dans les vêtements et tout. Mais c'est vraiment ça, c'est quand on a besoin d'un changement.
Oui, c'est ça. Donc, c'est finalement, c'est d'aller aussi, ce que j'entends, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire d'aller chercher le pourquoi du changement et tout. Lorsque maintenant, on parle de maquillage comme tel, est-ce qu'il y a des marques ou des choses qu'on peut trouver facilement? Parce que, bon, je sais, moi, le Jean Coutu, proche de chez moi, c'est pas là où je vais trouver le maquillage pour me maquiller.
Je vous dirais que oui, il y a des marques locales. Il y a aussi des marques qui sont rendues dans les grandes surfaces, comme par exemple Sephora, parce que tu rentres là et tu as une centaine de marques. Et là, il faut trouver un peu ce qui te convient, donc avoir des conseils au niveau des produits. Je dirais que de plus en plus, les marques commencent à avoir des teintes un peu plus foncées. Mais dans les pharmacies, l'histoire est qu'à un moment donné, les gens se plaignaient beaucoup et se disaient « on ne comprend pas pourquoi ». Je ne peux pas trouver ma teinte dans les pharmacies. Et en creusant, ils nous disent que c'est vraiment au niveau de la demande. Donc, lorsque tu vas dans une pharmacie et tu ne trouves pas le produit, à un moment donné, tu peux avoir la conversation avec la conseillère qui va parler aux représentants. Parce qu'il y a toujours des représentants de chaque marque qui font des tournées à tous les mois dans les pharmacies pour voir est-ce que les produits bougent, est-ce que ces teintes-là, est-ce que ça bouge ou quoi que ce soit. Mais je dois dire que le côté un peu hypocrite de l'industrie, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de publicité, tu vois. Donc, ils ont les produits, ils ont quelques teintes plus foncées, mais ils ne vont pas l'annoncer.
Voilà.
Donc, à ce moment-là, quand le représentant revient après 3 mois, puis il se dit, ben, les teintes n'ont pas bougé, donc elles n'en ont pas de besoin, elles les enlèvent. Parce que si on l'enlève, c'est si la teinte est là, c'est de l'argent. Tu vois, donc, on enlève les teintes, on met d'autres teintes qui sont beaucoup plus populaires. Donc, c'est vraiment, il y a un travail qui doit se faire au niveau de la communication, mais aussi... Il faut en parler en conseillère à la pharmacie de chez soi pour dire est-ce qu'il y a moyen d'avoir des teintes pour ma peau. Mais je dois le dire aussi, si vous êtes la seule, ça risque pas de changer beaucoup, ça risque de ne pas bouger. Tandis qu'à Montréal-Nord, certaines boutiques ou même dans l'ouest de Montréal, il y a beaucoup de diversité au niveau des cultures. Là, on trouve beaucoup plus de produits.
Et puis, quelque part, comme vous dites, s'il n'y a pas de publicité, moi, je ne vais pas avoir le réflexe non plus d'aller chercher mes produits chez le Jean Coutu, proche de chez moi.
C'est le moyen de le savoir, c'est ça.
Je vais aller dans des endroits beaucoup plus spécialisés. Donc, lorsque vous avez quelqu'un, vous prenez en charge, etc., donc il y a tout ce changement-là qui se fait. Le résultat, vous, comme... avec votre expertise, quel est le résultat que vous attendez?
En fait, je veux que la personne soit surprise, mais qu'elle se reconnaisse dans le processus aussi, surtout au niveau du maquillage, parce que si on se fie à ce qu'on voit sur les réseaux, il faut acheter 50 produits, il faut acheter le concealer, il faut acheter le primer, il faut acheter la base, les sourcils, tu as besoin de 6 produits. Et moi, en fait, j'ai travaillé chez MAC pendant des années et cette partie-là, je ne faisais pas MAC vente tant que ça parce que justement, moi, une cliente qui vient, je ne vais pas te proposer 20 produits si tu n'en as pas de besoin.
C'est ça.
Je vais t'en proposer 2. C'est sûr, pour les ventes, ça n'aide pas. Mais en même temps, pour moi, c'est important d'être sincère dans ce que je fais et de conseiller la personne pour qu'elle comprenne ton type de peau, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que tu veux mettre en valeur, est-ce que tu as la peau sèche, tu as la peau grasse, tu as la peau déshydratée, même ces choses-là, les clients ne le savent même pas. Tu vois, donc c'est au niveau de l'éducation. Moi, c'est plus l'éducation qui m'importe. Donc, moi, c'est plus la surprise de voir la transformation et aussi qu'elle se reconnaisse. Je trouve ça important parce que je peux faire quelque chose, arriver à la maison, la personne, elle se dit « Ah, pour un moment, c'était cool, mais arriver chez moi dans mon train-train quotidien, moi, j'ai pas le temps de refaire ce genre de choses-là. Donc, c'est pour ça que je vais creuser jusqu'à comprendre, tu travailles où? Est-ce que tu as des enfants? T'en as pas? Ton style de vie doit s'adapter au look que tu as besoin d'avoir pour pouvoir le garder plus longtemps.
Très intéressant. Je vois la même question. Lorsque un enfant arrive avec sa maman et tout, c'est quoi votre satisfaction, le résultat que vous attendez?
Moi, j'attends à ce que, et c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est que l'enfant se découvre dans la glace, comme s'il ne s'était jamais découvert avant. Et quand on voit le sourire, la joie qu'il y a sur son visage et qu'il dit « Oh, je suis belle !» Alors là, c'est magnifique. Quand je reçois les témoignages de mamans qui me disent, une fois rentrée à la maison, elle a couru pour montrer sa nouvelle coiffure à son papa, qu'elle était fière de ses cheveux, qu'elle ne fait que se regarder dans la glace. Ça, c'est vraiment une fierté. Et c'est ce que j'aimerais que toutes les petites filles et tous les petits garçons arrivent à avoir dans leur vie.
Mmh. Puis est-ce que, en majorité, vous voyez que les mères ont une grande ouverture?
Je dirais... un peu comme tout à l'heure, oui et non. Mm-hmm. Certaines mères savent, surtout les femmes caucasiennes, savent qu'il y a un manque à ce niveau-là, qu'elles n'ont pas reçu cette éducation, donc c'est plus difficile, mais elles le voient un peu comme une montagne.
Voilà, ouais. Mm-hmm.
Donc, comme elles ne le voient pas comme étape par étape, mm-hmm. ça leur fait peur. Donc, je dirais que c'est... Il faut juste leur faire comprendre qu'il faut y aller étape par étape pour pouvoir avoir un résultat, et aussi que bah, les produits magiques, ça n'existe pas, mm-hmm. parce que beaucoup veulent la facilité, puisque souvent, les femmes aux cheveux lisses, on fait un shampoing, c'est fini. Mm-hmm. Non, le cheveu texturé, ça demande plus de soins. Donc à partir du moment où elles comprennent vraiment qu'il y a une routine à faire, qu'il y a un shampoing, un après-shampoing, le démêlage et la coiffure, qu'on y va étape par étape, elles arrivent à comprendre et l'intégrer dans leur routine. Et là, je dirais qu'il y a... elles vont moins se voiler la face. Parce que beaucoup se disent, oh ben j'ai acheté tel produit, telle marque, j'ai dépensé presque 100$, mais j'ai pas de résultat. Oui, mais bon, si la routine est faite à moitié, l'enfant ne dort pas avec un bonnet, il n'y a pas eu de coiffure protectrice, l'enfant a toujours les cheveux lâchés, ça ne va pas fonctionner.
C'est ça.
Beaucoup de personnes ont des fausses croyances. Ils vont mettre de l'huile de coco ou du beurre de karité sur les cheveux de l'enfant, ils vont acheter des produits chers et ça va s'arrêter là. Or, la routine capillaire, ce n'est pas juste mettre du beurre de karité sur les cheveux de l'enfant. Ils pensent hydrater les cheveux, alors que pas du tout, ça fait que juste graisser les cheveux, mettre de l'huile sur les cheveux. Ça ne va jamais hydrater un cheveu. Donc, il y a des méthodes à apprendre, des techniques, que ce soit de soins ou de coiffure, qui font que, bah, au final, elles vont faciliter la vie de l'enfant, leur propre vie. Et puis, on va passer peut-être 2 heures ou 2 semaines. Et là, tout le monde va être content. Et l'enfant va avoir une très forte estime de lui-même.
Oui, parce que c'est ce que j'allais dire, l'incompréhension justement du parent vient amener un sentiment de culpabilité envers l'enfant aussi. Parce que quand tu vois que ta maman est frustrée, elle ne comprend pas. Justement, ma sœur est métissée, puis sa maman me posait des questions, elle ne comprenait pas et tout. Donc, pas qu'elle était frustrée du tout, mais parfois, je les entends parler, ils disent « c'est compliqué, c'est long, c'est sec, ils ne sont pas beaux, ces cheveux. » Puis je les entends parler de leurs enfants et je dis « mais c'est parce que l'enfant, elle entend ça aussi, tu vois. Donc, c'est à un moment donné, elle se sent mal. Puis elle dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? What's wrong with my hair? Je suis pas à l'aise et tout. Donc, c'est tout ça qui... Parce que tout le monde, par réflexe, j'ai dit, mais oui, mais si t'as un enfant noir, c'est normal. Mais c'est pas la même chose. Moi, je dis, croyais quoi, t'as eu un enfant noir? Mais c'est pas comme ça que ça se passe.
Non. Ouais.
Je poursuis avec Siomé Chan, styliste capillaire, et Gérardine Jeune, conseillère en images. Ben ouais, on a un peu ri avant la petite pause, mais vous allez ajouter quelque chose, Siomé?
Oui, je disais que ce qu'il faut vraiment dire, surtout aux mamans, c'est que notre frustration et le vocabulaire qu'on utilise pour nommer les cheveux, crinière, touffe, tout ce vocabulaire péjoratif nuit inconsciemment à l'enfant. C'est sûr et certain. Si on arrive devant la routine et on commence à souffler, j'en ai marre, c'est trop long, et qu'on l'exprime négativement, c'est sûr que ça a un impact négatif. L'enfant ne va pas pouvoir aimer son image ni aimer ses cheveux. Et c'est très important d'avoir un vocabulaire positif pour que l'enfant apprenne à aimer ses cheveux et donc s'aimer soi-même.
Non, c'est vraiment important parce que on l'a vu tellement souvent, le test de la poupée blanche et la poupée noire. Et on demandait à une enfant qui était le plus beau ou la plus belle poupée. Et c'était toujours la poupée blanche. Donc, ça aussi, ce qu'on dit, c'est les mots utilisés. Les mots. Puis de dire aussi que c'est beau. Parce que quand la mère elle-même dit « je suis fatiguée avec tes cheveux, je ne suis pas capable, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas beaux », elle peut pas se trouver belle.
Exactement. Alors déjà, il y a deux choses. Si on parle d'une mère caucasienne, donc elle, elle n'a pas l'expérience, mais on a aussi beaucoup de mamans noires qui ne se trouvent pas belles et qui n'assument pas ses propres cheveux. Mm-hmm. Et donc, une maman qui porte toujours des perruques, qui fait des greffes ou qui met des rajouts, l'enfant, des fois, n'a jamais vu sa mère avec les cheveux naturels. Mm-hmm. Et ça, ça peut être... C'est difficile de dire à son enfant, t'es belle, tes cheveux sont beaux, si nous-mêmes, on n'accepte pas nos propres cheveux. Mm-hmm. Et c'est ça qui est compliqué aussi, de faire comprendre aux mamans qu'il faut s'accepter soi-même pour renvoyer au message, puisque la mère est le modèle de la fille.
Tout à fait.
Nos enfants, nos filles, copient-collent ce qu'on fait.
Ouais, ouais,
donc exactement. Si on s'aime soi-même, notre enfant va s'aimer soi-même aussi. Mm-hmm.
Puis c'est tellement important que parce que lorsque vous avez parlé en début de l'éducation capillaire, finalement, l'éducation capillaire, c'est pas juste chez les mères caucasiennes, c'est aussi chez les mamans noires.
Oui.
Donc, puis à quel moment vous suggérez cette éducation?
Je le suggère, je dirais, dès le début parce qu'il faut bien un commencement.
C'est ça.
Donc ça peut être la maman capillaire. Moi j'ai eu mon commencement avant d'avoir mes enfants, avant d'avoir ma fille.
Ouais.
Je l'ai eu à 30 ans. Mm-hmm. Je l'ai eu tard, mais vaut mieux tard que jamais. C'est mais il faut qu'on l'ait à un moment donné parce que c'est très important. Je le vois tous les jours au quotidien. Ben j'ai grandi sans cette estime de moi et ça a été une problématique dans ma vie pour ne serait-ce que prendre des décisions, pour pouvoir acter certaines choses. Quand on a une faible estime, ben c'est difficile de dire non. Mm-hmm. C'est difficile de s'affirmer.
Ouais.
Et c'est ça qui est compliqué.
Ouais.
Parce qu'on ne voit pas tout cet impact au fil de notre vie. Mm-hmm. Mais un enfant, il devient un adulte à un moment donné. Et donc un adulte qui grandit avec une forte estime, ça n'a rien à voir avec un adulte qui grandit avec une faible estime.
Exactement, exactement. Moi, je me souviens que c'est à l'âge de 9 ans que j'ai commencé à me coiffer toute seule.
Mm-hmm.
Parce que ben ma mère voulait aussi que je sache me coiffer et tout ça. Puis qu'est-ce qui arrive quand les enfants sont métissés? Parce que bon, j'ai ma petite fille qui est métissée aussi, donc je vois que elle peut pas faire grand chose à l'âge où moi je savais prendre soin de mes cheveux. Donc c'est quoi votre conseil? Ce serait aussi que je vais me l'approprier.
Ben en fait ça passe par le savoir. Il faut que la maman sache faire. Moi, je commence, ma fille a 7 ans, je commence vraiment à lui montrer, elle a déjà sa poupée mannequin que j'accroche sur le bord de la table et elle commence à déjà apprivoiser, si je peux me permettre, la texture de cheveux.
Okay.
Après, c'est sûr que selon la densité et la longueur, je ne sais pas si ma fille pourra se coiffer toute seule à 9 ans parce qu'elle a énormément de cheveux, ils sont très longs, mais au moins commencer les techniques, savoir tresser, twister, être familier au vocabulaire, aux soins, savoir ce que c'est que un leave-in, une crème, une huile, à quoi ça sert. Donc déjà, qu'elle soit baignée dans tout ce vocabulaire et cette culture capillaire.
Mm-hmm. OK. Alors, dans tout ça, ce serait quoi la recommandation pour une boîte à outils là, de démarrage? Qu'est-ce qu'il faut qu'une maman ait?
Je dirais, pour être concret... quelques accessoires, une bonne brosse, une brosse adaptée aux cheveux, il en existe beaucoup, un peigne à grosses dents, un peigne à dents fines, un bonnet en satin prioritaire ou une taie d'oreiller en satin parce que le soir, le coton de la taie d'oreiller absorbe toute l'hydratation. C'est à peu près ce que je dirais. Puis un petit kit pour pouvoir embellir la coiffure. Donc des perles, des earrings, des petites choses comme ça. C'est très important de rendre la coiffure, surtout si c'est une fille un peu girly.
Oui.
Parce que elle va encore se trouver plus belle. Donc même si la coiffure est belle et qu'on rajoute des petits accessoires dessus, c'est très important qu'elle se trouve encore très jolie parce qu'elle va recevoir des compliments de l'extérieur.
Mm-hmm.
Et puis on essaie de prendre une gamme naturelle. On essaie étape par étape un shampoing, un après-shampoing, l'hydratation doit se faire en trois phases avec un leave-in, on va dire une crème sans rinçage, une huile et une crème un peu plus épaisse. Donc on appelle ça la Locke méthode, c'est l'hydratation, donc c'est vraiment ça, cette partie-là qui est très importante, que beaucoup de personnes passent sur le sujet, qui n'utilisent qu'une seule crème. En fait, il faut trois produits pour l'hydratation et ensuite on passe à la coiffure protectrice.
Mm-hmm. C'est...
Ouais, il y en a des étapes.
Il y a des étapes, hein, c'est ça?
Quatre étapes.
C'est super. Je reviens un petit peu sur le bonnet de satin.
Oui.
Alors, parfois, on en rit, hein, parce qu'il y a des couples mixtes lorsqu'ils voient leur conjointe mettre le bonnet. Oui.
Il faut qu'ils s'habituent.
Il faut qu'ils s'habituent.
Oui. On opte aussi pour la tête d'oreiller en satin, c'est ce que
satin,
j'ai.
Voilà,
une tête d'oreiller, ça fait l'affaire aussi.
Mais il y a des beaux bonnets
oui.
de nos jours.
Oui, ça fait
un
beau.
Peu améliorer Exactement. L'apparence.
Ouais, voilà,
bonnets,
ça reste exactement. Sexy aussi.
Exact.
Alors, maintenant, Gérardine, alors, boîte à outils pour une base en maquillage pour peau métissée.
Je dirais d'avoir un soin de peau, une routine de soin de peau, de l'hydratation avec un écran solaire. Puis au niveau du maquillage, je dirais un cache-cerne, un bon fond de teint, une poudre translucide matifiante. Je dirais ces trois produits-là. Puis ensuite, là, il faut vraiment rentrer dans les détails de quel type de cache-cerne. Il y a des cache-cernes plus épais que d'autres. Parce que comme je disais plus tôt, si tu mets un peu de cache-cerne un peu partout... t'es peut-être pas le même obligé de mettre du fond de teint. Tu peux mettre un peu de cache-cerne, unifier le teint, mettre une poudre translucide et ça va. T'es pas obligé de mettre du fond de teint pour justement que ton teint soit radieux. Parce que moi, je dis que ça va à la base. Les sérums, les soins de peau, c'est hyper important d'investir là-dedans, qui fait qu'au final, tu mets moins de maquillage.
Oui, tout à fait. Puis, alors, quand on parle du cache-cerne, le cache-cerne doit être beaucoup plus pâle, je crois, que... sa couleur ou ça dépend de la couleur de
peau? Ça dépend de la couleur de peau. C'est sûr que, comme on disait sur les réseaux sociaux et tout, là, à un moment donné, il y avait une mode où c'était vraiment pâle. Là.
Oui.
On a l'impression que... Parce qu'en fait, le plus pâle donne un peu l'effet que tu as l'air plus réveillé.
Oui.
Donc, ça illumine le visage et tout. Mais en fait, moi, personnellement, de tous les jours, j'ai un cache-cerne qui est à peu près la même teinte que ma peau.
D'accord.
Parce que moi, j'aime pas trop le style, parce que j'ai de l'air
c'est ça,
trop
oui,
maquillée.
Oui. Voilà, ouais.
Mais oui, ça dépend. Si les cernes sont beaucoup plus foncées, on va mettre une base pour neutraliser la couleur foncée, que ce soit à base de rouge, orangé, vert, dépendamment. Il faut aller faire une consultation. Mais à ce moment-là, juste un peu de cache-cerne, t'es pas obligé d'avoir la teinte beaucoup plus pâle que ton teint du tout. C'est vraiment une tendance qui est pas obligé de suivre, surtout si tu mets pas beaucoup de maquillage. C'est plus t'en mets, plus tu crées des concepts de highlight, de contouring et tout, plus tu dois en mettre pour pallier à ce que tu utilises, tu vois. Donc, si plus tu te rapproches de ton teint, moins tu as besoin d'en mettre sur ton visage pour camoufler et faire un... parce que tu as vraiment besoin de beaucoup de produits si tu commences à aller dans cette direction, en fait.
Okay.
Ouais.
Bonjour au micro avec Siomé Chan, styliste capillaire, et Gérardine Jeune, conseillère en images. Alors, madame, je me posais la question, est-ce que il y a une façon, donc Siomé, de connaître ses boucles ou un outil? Et puis, Gérardine, je vous poserai la même question au niveau de la peau. Donc, là, on est plutôt dans la dernière partie de l'émission, donc en mode solutions et conseils.
Je dirais que connaître ses boucles, c'est important, mais c'est pas primordial. Il existe la théorie de Walker, où on catégorise les boucles en types et en lettres. Mais à partir d'une photo, d'une petite vidéo, on peut reconnaître les boucles de l'enfant et à partir de ce moment-là, apporter des soins adaptés. Je donne du coaching en one-to-one avec les mamans. La plupart sont en virtuel, donc aux Antilles, en France ou au Québec.
D'accord.
Et donc à partir d'une photo, j'arrive à déterminer le type de boucle et selon l'objectif capillaire de la maman, on propose une routine, des produits, etc. Mais je donne aussi surtout des formations en ligne sur le démêlage, l'hydratation et la coiffure. Donc c'est des capsules vidéo. Quand on prend le programme en entier, il y a plus de 70 capsules vidéo qui va apprendre donc à démêler, à hydrater, à tresser le cheveu et à faire de belles coiffures pour les enfants. Donc vraiment, type de boucle, oui, mais pas vraiment nécessaire et primordial pour prendre soin des cheveux de son enfant.
D'accord. Je sais que vous vous êtes spécialisée pour le cheveu de l'enfant, mais je veux dire, si une adulte veut vous consulter, vous n'allez pas dire non.
Non, je ne vais pas dire non, bien sûr. Je fais aussi des consultations consultation pour les adultes, oui, oui. Mais c'est vraiment le sujet des enfants qui me tient à cœur. Et c'est vraiment cette transmission que je voudrais apporter aux mamans qui sont souvent en détresse, oui. Quand elles ont des enfants aux cheveux texturés.
Tout à fait, tout à fait.
Les mamans ou les tantes, j'ai des nièces. J'ai pas voilà, d'enfants, mais j'ai des nièces.
Oui, oui. Alors, c'est vrai. Alors, Gérardine et vous, est-ce qu'on peut savoir de notre teinte de peau, est-ce que c'est plus doré, moins doré, chocolaté, café
café au lait.
Café au lait.
En fait, c'est beaucoup plus difficile, je dirais. Enfin, mm-hmm. Je pourrais vous dire, il y a des tests à faire et tout. Je pense que c'est au niveau essai-erreur. Mm-hmm. C'est sûr que d'aller voir, de se renseigner aussi, on peut le voir sur Internet, voir un peu comme quand on dit un teint doré, voir des exemples d'un teint mm-hmm. doré versus un teint plus olive, plus bleuté. Donc, c'est toujours bon de voir certains exemples. Mais après ça, c'est d'aller voir justement que ce soit les conseillères d'une pharmacie ou dans les magasins à grande surface pour vraiment poser des questions et justement comprendre déjà à la base le type de peau. Mm-hmm. Peau grasse, peau déshydratée, peau sèche. Parce qu'il peut y avoir aussi des rougeurs. Il y a des femmes noires qui ont des rougeurs au niveau de la peau aussi. Donc, quand on parle de rosacée au niveau du teint caucasien, ben, il peut y avoir des rougeurs aussi. Mm-hmm. Donc, à la base, c'est important de connaître sa peau parce que lorsqu'on arrive en magasin, on a quand même une bonne base. Et à ce moment-là, la conseillère pose des questions. Mais je dois avouer que c'est vraiment... tu dois tester certains produits. Ouais. Puis, si tu as des magasins à grande surface, ne pas avoir peur de demander des échantillons mm-hmm. Et rentrer à la maison, puis essayer les produits, puis de voir quelle marque, parce que toutes les marques sont différentes, les teintes sont différentes, il y a beaucoup de choix, et ça peut être un peu stressant de trouver la bonne teinte, mais de ne pas avoir peur de demander des échantillons et mm-hmm. d'essayer à la maison, je pense que c'est la meilleure façon de trouver la bonne teinte.
Tout à fait, parce que même dans la différence de peau, moi je regarde aussi, même au niveau du rouge à lèvres, ça peut être un rouge, mais moi il y a des rouges qui me vont mieux que d'autres.
Ouais.
Ça aussi, ça fait partie, je pense.
Ouais, il y a des rouges, surtout le rouge, là, c'est pas évident de trouver sans rouge. Il y a des rouges bleutés, rouge orangé, rouge rose. Mm-hmm. Il y a des rouges qui ont trop de brun. Mm-hmm. Ça dépend, faut faire des essais. Mais moi, en fait, au niveau du consommateur, mais de plus en plus, j'essaie d'encourager justement les maquilleuses ou je suis entourée de maquilleuses, de leur poser des questions, de les encourager à justement apprendre à connaître pas mal de choses au niveau des peaux noires pour pouvoir mieux conseiller aussi mm-hmm. cette partie-là, je trouve un peu. Parce que parfois, j'y vais comme cliente mystère.
Oui.
Je dis pas que je suis maquilleuse. Mm-hmm. Je fais comme si je comprenais mm-hmm. rien. Je pose des questions juste pour voir un peu l'expérience et pour être honnête avec vous. Parfois, je trouve ça vraiment triste parce que je dis, mais moi, je m'y connais, donc je sais qu'est-ce qu'elle me raconte, ça fait aucun sens. Mm-hmm. Mais quelqu'un qui le sait pas, tu vois. Donc, je pense que c'est au niveau des conseillères, des boutiques et de voir comment est-ce qu'on peut éduquer les conseillères.
Voilà.
Et en tant que cliente, connaître sa peau. Mm-hmm. Au moins une bonne base, comme ça, la dame va pouvoir vous conseiller du mieux qu'elle peut.
Oui, ouais. Tout à fait. Donc, vous êtes, je vous entends depuis le début de l'émission, vous êtes toutes les deux passionnées par vos métiers. Mm-hmm. Puis maintenant, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que dans un avenir proche ou plus lointain, qu'est-ce que vous auriez aimé changer qui vous faciliterait dans vos champs d'expertise?
Si à l'école, on pouvait donner un module, alors peut-être toi, au niveau de la peau ou un module au niveau des cheveux, mm-hmm. Pour comprendre vraiment...
Pour les coiffeurs,
Pour les coiffeurs et même pour les enfants, avoir un module sur l'estime de même, par quoi ça passe, c'est pas une notion qu'on apprend à l'école. Et je trouve ça important qu'on puisse apprendre ça à nos enfants. La confiance mm-hmm. en soi, l'estime de soi, c'est vraiment pas des notions qu'on apprend à l'école. Ça serait bien qu'on mette ça au programme.
Oui. Gérardine?
Idéalement, ben moi, je suis plus les clientes, oui, mais je m'attaque plus à l'industrie.
Oui.
justement, avoir des sur les plateaux, partout, d'avoir des professionnels qui sont habitués à travailler avec mm-hmm. les cheveux crépus, les peaux noires, au niveau des conseillères, de s'y connaître au niveau des produits, puis d'avoir une ouverture d'esprit aussi, tu vois.
Oui.
Parce que, et à la base aussi, j'irais jusqu'à engager justement des personnes de peau noire sur les plateaux mm-hmm. quand on voit que, bon, il y a pas mal d'invités dans ce sens-là. Parce qu'il y en a qui disent, c'est juste que je n'ai jamais appris, je ne sais pas trop quoi faire, tu vois.
Oui.
Donc, engager des gens à peau noire, cheveux crépus qui vont pouvoir justement s'occuper des invités, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, l'ouverture d'esprit dans l'industrie, que ce soit de les engager et celles qui sont là, d'apprendre poser des questions, de s'informer, de se dire, OK, comment est-ce que je peux apprendre? Mm-hmm. D'aller voir Siomé, prendre des cours, ouais. prendre un coaching, parce que c'est important.
Exactement. Et pour vous rejoindre, d'ailleurs, pour ces coachings-là, de part et d'autre, on va mettre vos coordonnées sur notre Facebook lorsqu'on va faire l'émission, parce que je pense que c'est important. Moi, j'ai des solutions que je veux avoir aussi pour mon yoga show. Alors, voilà, ben écoutez, ceci met vraiment fin à notre émission. Puis, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je pense que vous nous avez grandement éclairé sur le sujet. Mathieu, notre technicien, nous dit qu'il a beaucoup appris. Donc, alors, c'est fait. Et je pense que pour les auditrices aussi et auditeurs, donc, on encourage fortement les mamans à aller consulter pour leur petite fille et aussi pour une transformation d'image aussi.
Oui,
alors, voilà. Donc, merci à toute l'équipe. Mathieu merci. Tessier à la merci. Mise en onde. Lynn Roy à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors ici Marjorie Théodore qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine.